Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. On dit parfois que les journalistes sont déconnectés des réalités, notamment qu'ils ne s'intéressent pas ou pas assez aux périphéries urbaines. On remarque aussi que les jeunes se détournent des médias d'information alors même qu'ils sont toujours connectés grâce au smartphone. Dans cette émission, deux journalistes vont raconter ce qu'ils font pour s'emparer de ces problématiques. D'abord à Lyon, où Dory Bruyas agit avec l'association Fréquence École, former les jeunes au numérique est selon elle un des grands enjeux de notre époque. Mais tout de suite, gros plan sur rue 89 Strasbourg, où les journalistes font tout pour se connecter au quartier populaire.
RFI.
Pierre France, je suis journaliste et cofondateur d'un média local à Strasbourg qui s'appelle rue 89 Strasbourg.
Rue 89 Strasbourg a un projet qui s'appelle Quartier Connecté. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
Oui, alors Quartier Connecté existe depuis 2 ans. C'est une opération qu'on a mis en place avec le soutien du ministère de la Culture face à un constat de défiance grandissante envers les médias, particulièrement dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, les journalistes sont vus comme faisant partie d'un système. Quand les gens, les habitants voient des journalistes, ils sont souvent accompagnés de policiers et de pompiers. Et ça finit par classer les journalistes comme faisant partie des institutions, etc., et d'un monde qui finalement n'arrive sur place que ponctuellement, mais pas en mesure de les aider ou de les écouter. Donc nous, on veut renverser ça. On envoie des journalistes dans les quartiers populaires, en dehors de tout sujet, d'ailleurs sans aucun sujet, et on fait des conférences de rédaction publiques où on invite les habitants à venir nous rencontrer et nous parler. Et qu'est-ce qui se passe dans ces réunions ? Eh bien, les gens nous parlent de leurs problèmes et de comment ils aimeraient qu'un journaliste s'en empare. Et c'est là où on comprend que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les journalistes sont vus comme faisant partie de la ville, quasiment. Les gens nous disent, au début, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils nous disent, mais régler ce problème des charges, régler ce problème de chauffage, régler ce problème de poubelle. Et donc, nous, il faut qu'on explique qu'on ne va pas régler un problème de poubelle dans la ville. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre leur parole, documenter ce problème et faire remonter cette question. Et après, peut-être qu'effectivement, ce sera réglé par une écoute attentive des élus qui, on le sait, fonctionnent quand même sur impulsion des médias. Et donc, cette logique, en fait, de comment on s'organise, comment on s'adresse à nos représentants et la logique médiatique, c'est complètement absent des quartiers populaires. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repermet à ses habitants d'utiliser ce mécanisme de la pression populaire.
Avec Quartier Connecté, il y a aussi une démarche de fait d'éducation aux médias. Les journalistes vont vers les gens. Ça, c'est important. Et comment est-ce que, justement, les habitants de ces quartiers perçoivent les journalistes ? Y a-t-il des a priori, déjà, parce qu'on parle de manque de confiance envers les médias, voire de défiance également ?
Oui, y a les a priori que j'expliquais, qui sont que les journalistes sont là plutôt pour faire un relais de communication ou un relais des institutions, des élus, des pouvoirs locaux, etc. Alors que avec cette démarche, on leur montre que les journalistes, normalement, leur premier métier, c'est d'être à l'écoute, et y compris des gens, pas des institutions bien sûr, mais y compris des gens, même si c'est plus compliqué. Donc il y a d'abord une phase d'incompréhension, mais là on l'a dépassé quand même. Ça fait 2 ans que ça marche, cette opération, et donc les gens ont compris qu'ils pouvaient nous solliciter pour que les élus s'intéressent ou fassent un peu attention à la manière dont ils communiquent ou ils agissent dans les quartiers. En fait, il y a un mot anglais qui fonctionne très bien et qui caractérise plutôt cette démarche plutôt que l'éducation aux médias, c'est ce qu'on appelle de l'empowerment. C'est-à-dire on redonne le pouvoir citoyen aux habitants des quartiers. Parce que sans journalistes, en fait, finalement, ces gens-là ne comptent pas, ne comptent jamais. On sollicite leur avis qu'au moment des élections et ils le ressentent fort durement. Et avec cette démarche, on leur permet de participer à la vie de la cité. Dans tous les autres quartiers de Strasbourg, à la Robertsau, au centre-ville, à Neudorf, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un petit collectif qui se met en place, et puis il y en a un qui connaît un journaliste, soit des dernières nouvelles d'Alsace, soit de rue 89, et puis on reçoit une forme de communiqué. Il y a ça, il y a un projet d'enlever un arbre ou de changer un nom d'école ou de changer une rue, etc. On n'est pas d'accord, on s'est monté. Voilà. Cette démarche là est complètement impossible dans les quartiers populaires. Parce que dans les quartiers populaires, comme ils connaissent pas les journalistes, comme ils ont aussi des contraintes de vie quotidienne qui s'ajoutent à tout ça, mais ils connaissent pas de journalistes, ils sont incapables de s'organiser. Donc avec cette opération-là, ils peuvent. C'est-à-dire que nous, on distribue nos cartes de visite, ils ont notre numéro, ils ont nos 06, et la démarche s'arrête pas aux conférences de rédaction publique. Et on voit déjà donc des gens qui se disent « mais ça, c'est quand même pas normal, il faudrait quand même qu'on alerte Rue 89 là-dessus ». Et nous, c'est ça notre objectif, en fait.
Et donc, votre site Rue 89 Strasbourg, c'est un site d'information locale. Est-ce qu'il y a justement, de la part des populations, des habitants de ces quartiers, moins d'a priori peut-être que face à une grande chaîne de télévision nationale ? Parce qu'il est vrai que beaucoup de personnes, quand ils pensent journalistes, ils pensent chaîne d'information continue ou grande chaîne nationale.
Bon, alors ça, c'est un problème auquel on est confronté. Rue 89 Strasbourg, dans les quartiers populaires, ils connaissaient pas du tout. C'est un média local, on est un média politique, et puis en plus, on est un média d'enquête. Donc, sur notre positionnement, on n'est pas du tout à destination d'un public naturel pour nous, mais à notre corps défendant. Hein. Donc, on se fait violence. Et effectivement, on, grâce à cette opération, on a eu des sujets auxquels on n'aurait pas pensé. Après, clairement, c'est vrai que si on avait des caméras, on serait un petit peu plus vu comme des journalistes dans ces quartiers-là. Les gens comprennent pas forcément ce que c'est que la valeur d'un papier, et puis aussi toute la technicité qu'il peut y avoir dans un papier d'enquête. Parce que on a fait un sujet, par exemple, sur le problème des GPS qui n'avait pas du tout été mis à jour suite à la rénovation complète d'un quartier. Donc, les livreurs ne trouvaient pas les portes. Ça faisait des mois que ça durait. Aucun journaliste n'avait été alerté sur cette question. Et le fait de travailler sur cette question, de poser la question aux éditeurs de GPS, etc., ça prend 3 semaines, 4 semaines. Et puis après, il y a un article. Et cette idée, ce travail journalistique, eh bien, effectivement, là, c'est de l'éducation aux médias, puisque les gens qui sont venus dans cette opération ont pu voir la difficulté pour les journalistes d'obtenir eux-mêmes des informations. Les gens pensent que les journalistes, il suffit qu'ils posent la question et ils ont l'information. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué.
Arrivez-vous à embarquer dans cette aventure des confrères de médias plus anciens, plus installés, plus établis et de l'audiovisuel également ?
Alors, on n'a pas essayé. C'est une bonne question. On devrait peut-être essayer. Je vous avoue que pour l'instant, nous, on est assez contents d'en faire une opération siglée Rue 89 Strasbourg, parce que c'est une démarche d'écoute. Et Rue 89, quand il a été fondé par Pierre Aski, Pascal Richer, Arnaud Aubon et Laurent Mauriac en 2007, il s'est appelé Rue justement pour ça, pour remettre le journaliste au niveau de la rue. Donc on est vraiment dans l'ADN des fondateurs de Rue 89, et ça correspond à cette manière de faire du journalisme, d'être à l'écoute et de sortir ce qui peut être discuté parmi les gens et de le transformer en sujet.
Et arrivez-vous à toucher la jeunesse ?
Non, on n'arrive pas à toucher la jeunesse. Ça, c'est un gros problème qu'on a. Alors, ça, c'est aussi lié au fait qu'on n'est pas avec des caméras ou avec du matériel, etc. Et qu'on n'est pas encore vu par la jeunesse comme des journalistes. Donc, effectivement, ce qu'on a dans nos réunions, c'est des parents, des familles, et puis des gens qui sont déjà impliqués dans le réseau associatif, etc. Mais c'est assez normal. Ça prend du temps, en fait, pour exister dans ces quartiers. Et pour la jeunesse, il va falloir qu'on modifie et qu'on fasse des réunions spécifiquement destinées aux jeunes des quartiers, parce qu'ils viendront pas à une réunion où il y a leur mère et leur père. C'est no way.
Vous avez quelque chose à ajouter ?
Ben je dirais que c'est une démarche très intéressante, et que on a pu sortir des articles auxquels on n'aurait pas pensé, qui ont été publiés dans Rue 89 Strasbourg, et les gens ont été contents, en fait, parce qu'ils ont eu les mêmes emmerdes finalement que les gens des autres quartiers. Il y a des élus qui, suite à nos articles, ont passé des coups de fil un petit peu rageux, et ça, quelque part, ça les a réinstallés dans leur dignité de citoyens. Ils ont fait, vous voyez, nous aussi, on peut faire remonter des problèmes, et nous aussi, on peut vous embêter un petit peu. Et quelque part, ça leur a fait du bien de recevoir des coups de fil un peu rageux.
Merci Pierre-France.
Merci à vous.
On signale que l'opération Quartier Connecté a été élue meilleure initiative d'un média pour l'éducation à l'information aux Assises internationales du journalisme, où nous étions pour notre émission du 16 mars.
Atelier@rfi.fr RFI.
Avant de poursuivre, voici quelques informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de l'Atelier des médias cette semaine. La très controversée réforme européenne du droit d'auteur a finalement été adoptée mardi à Strasbourg. Le texte a été pensé pour protéger et mieux rémunérer les créateurs de contenu à l'ère numérique, mais aussi et surtout pour responsabiliser les plateformes comme Google, Amazon et Facebook. Tout cela va profondément modifier la circulation de la culture sur Internet, notamment sur YouTube, où chaque vidéo devra être scrutée pour être sûr que les détenteurs des droits des images ou du son seront bien identifiés. C'est l'Europe qui en sort renforcée dans sa souveraineté numérique, et les majors du disque et sociétés de gestion de droits aussi. Google réfléchit évidemment à une parade, à savoir vendre son savoir-faire d'identification des contenus. Quant à nous, internautes, eh bien, on risque d'en prendre un coup. C'est ce qu'estime Sofiane Fanen du site Les Jours, puisque, dit-il, on n'aura peut-être plus la possibilité de republier librement en ligne des vidéos et des morceaux de nos artistes préférés. Nouveau revers judiciaire pour le groupe Bolloré face à France Télévisions. Il réclamait 50 millions d'euros et se retrouve condamné en appel à en verser 10 000. Le groupe de l'industriel français Vincent Bolloré accusait la chaîne publique France 2 de l'avoir dénigré dans un portrait documentaire que lui avait consacré l'émission Complément d'enquête en avril 2016. Mais l'affaire va se poursuivre au Cameroun où le groupe Bolloré attaque également France Télévisions, de même que devant le tribunal correctionnel de Nanterre en France. Rappelons que ce documentaire a été récompensé du très prestigieux prix Albert Londres. La revue Afrique contemporaine est morte, ou c'est tout comme. Cette revue scientifique française d'études africaines n'a pas survécu à la suspension d'un dossier sur le Mali. Le rédacteur en chef et une partie du conseil scientifique ont préféré démissionner face à ce que certains ont qualifié de censure politique. Pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, je vous invite à lire l'article de Johan Tillouine sur Le Monde Afrique, qui s'intitule « Comment la revue Afrique contemporaine a perdu son indépendance éditoriale ». Et enfin, un constat pour terminer, le coût de l'accès à Internet a baissé partout dans le monde l'an dernier, partout sauf en Afrique, c'est ce que note Quartz Africa. Ce coût important est sans aucun doute un frein à la liberté d'expression, mais aussi aux opportunités économiques pour la jeunesse africaine. Prenons maintenant la direction de Lyon, où une ancienne journaliste revendique une nouvelle forme d'éducation aux médias, basée sur l'esprit critique avant tout. Camille Sarrazin l'a rencontrée pour l'Atelier des médias.
http://atelier.rfi.fr. Donc, je m'appelle Dory Bruyas, je suis directrice de l'association Fréquence École à Lyon, qui développe un projet d'éducation numérique sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui organise un grand événement qui s'intitule Super Demain.
Et avec Fréquence École, vous faites des formations à destination des jeunes, mais sur le numérique.
Absolument.
En quoi il faut former les jeunes au numérique ?
En fait, développer les compétences numériques, c'est un des grands chantiers de notre époque. C'est-à-dire que on a assisté avec beaucoup d'engouement, parfois beaucoup de crainte à une modification, à un glissement, en tout cas, à l'apparition du numérique dans notre société. Et en fait, pour pouvoir être à l'aise dans les mondes numériques, eh ben, il faut développer des compétences. Et ces compétences, on les développe pas de manière égalitaire. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du milieu dans lequel on est élevé, de notre appétence pour les cultures numériques, de nos usages aussi, même de la manière dont on se saisit des questions scolaires, de notre scolarité de manière globale, de l'orthographe, de la grammaire, etc. Eh ben, on va pas se saisir pareil du numérique. Donc, l'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'en fait, on arrive à concevoir des programmes qui mettent un peu tout le monde d'accord et qui permettent surtout de pas faire du numérique un espace de crainte, mais bien d'en faire un espace d'opportunité, c'est-à-dire un espace où on est capable de s'en saisir pour le bien commun.
On a l'impression que les jeunes et les ados, notamment, en fait, ils s'y connaissent déjà en numérique. Qu'est-ce qu'il faut encore leur apprendre ?
En fait, il faut pas confondre en matière de compétences numériques ce qu'on appelle les usages et la compétence. C'est pas la même chose d'utiliser que de comprendre comment ça marche. C'est pas la même chose utiliser son mail que de savoir que c'est un algorithme qui va permettre de faire fonctionner le moteur de recherche dans lequel on trouve l'information. Et bien souvent, en fait, c'est des utilisateurs assez chevronnés, en effet, hein, ils ont pas trop de problèmes d'utilisation. En même temps, les interfaces sont de mieux en mieux foutues aussi. Et puis, en fait, ils ont plutôt commencé à pratiquer jeunes, donc ils ont pas l'appréhension. Puis c'est le propre de la jeunesse de pas être dans l'appréhension. Donc ils y vont quoi, ils font. Mais pour autant, ils comprennent pas toujours ce qui se passe. Et d'ailleurs, nous, quand on les rencontre et qu'on pousse un petit peu les diagnostics et les questions, on est souvent un peu surpris de la manière dont ils comprennent les sujets numériques.
Là, c'est la semaine de la presse à l'école. Les jeunes et les adolescents, qu'est-ce qu'ils consomment comme médias sur Internet, par exemple?
Alors, en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'études, en particulier une étude que nous, on avait soutenue il y a maintenant quelques années, qui s'intéressait, ça s'appelait « Jeunes numériques et télévision ». C'était porté par Élodie Crédence et Amandine Carvela. Et cette étude, elle montrait très bien que les jeunes ne consommaient pas les séries télé, on parle pas d'information, mais les séries télé comme nous les consommions quand nous avions le même âge. Parce qu'en fait, quand on leur avait laissé la case vide sur les séries télévisées, quand on leur avait dit « qu'est-ce que tu regardes ?», on avait eu sur un groupe de 1500 jeunes à peu près, 300 réponses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, compte tenu de la variété de ce qu'est Internet, de la puissance de ce qu'est Internet, de l'incroyable machine qu'est Internet, les jeunes ont accès à énormément d'informations. Et donc de séries télévisées dans cet exemple-là, mais de médias aussi, ou de sources d'informations qui sont divergentes. Donc en fait, c'est compliqué de savoir exactement ce qu'ils regardent, et ça change tout le temps. Donc, pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont un rapport à l'information, qu'ils commentent l'actualité, qu'ils en parlent, donc ça veut dire quand même que c'est des sujets qui les intéressent, mais peut-être qu'ils ont trouvé certaines actus sur jeuxvideo.com, et puis que derrière, ils sont allés chercher de l'info en plus, etc. Et que du coup, ce qui est compliqué, c'est que l'éducation à l'information, c'est un truc qu'on imagine encore comme ce qu'on faisait dans les années 80, où on éduquait, alors on comparait les journaux entre eux, les lignes éditoriales, etc. Aujourd'hui, le phénomène est beaucoup plus complexe que ça. On est sur une information qui est complètement éclatée, fragmentée, qui correspond à des niches, à des cibles qui sont pas les mêmes, avec une individualisation de l'information. Donc du coup, forcément, ils en consomment, on le sait. Elle prend des formes différentes, on le sait aussi, mais c'est parfois très compliqué de savoir comment est-ce qu'ils ont été en contact avec cette information et finalement comment est-ce qu'on peut retracer le chemin qui les a emmenés jusqu'à cette information.
Sur l'éducation aux médias, justement, comment on développe leur esprit critique par rapport à ce qu'ils voient sur Internet sans non plus rentrer dans des théories un peu complotistes qui pourraient les... où là, l'esprit critique va trop loin, si je peux me permettre.
Éduquer à l'information. La question des fake news, la question des théories complotistes, etc., c'est un sujet extrêmement délicat, pour plein de raisons. Parce que, en fait, nous, en tout cas, à Fréquence École, on ne croit pas à la vérité. On a renoncé à l'idée de la vérité. Donc, bon, après, c'est basique, hein, en philosophie, c'est une des premières choses qu'on apprend. Mais moi, je suis une ancienne journaliste et j'ai longtemps cru qu'il y avait la vérité dans les journaux. J'ai longtemps cru que les journalistes formulaient la vérité, à contrario de gens qui, du coup, essayaient d'influencer l'opinion en formulant, du coup, des choses qui étaient là pour influencer l'opinion, qui n'étaient donc pas la vérité. Et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas comme ça que le monde marchait, et qu'en fait, chacun portait son propre regard sur une réalité, étant sûr que c'était la vérité. Et ça, c'est compliqué. Parce que, du coup, en fait, dans une société médiatique, toutes les formes, surtout dans la nôtre aujourd'hui, toutes les formes d'expression sont diffusées. Donc il y a la non-officielle, l'officielle, le journaliste certes patenté, le jeune journaliste qui n'est pas patenté mais qui du coup est extrêmement militant, et puis celui qui est même juste militant tout court, et puis celui qu'en fait qui est malveillant, etc. Toutes les formes d'information sont possibles. Enfin, toutes les formes d'expression sont possibles. Et dans ce truc-là, en vrai, aujourd'hui, moi je suis persuadée qu'il n'y a qu'un truc à développer chez les adolescents. C'est la confiance. Ça paraît complètement bizarre comme idée, mais je vais m'expliquer. En fait, il faut faire de l'éducation à l'incertitude. C'est-à-dire que la base, c'est de dire, en fait, il n'y a pas de vérité. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas la vraie information, la fausse information. C'est plus compliqué que ça, c'est plus nuancé que ça. Par contre, on peut faire un travail d'enquête pour essayer de croiser plusieurs sources, pour faire son propre point de vue, etc. Mais de toute façon, notre point de vue sera forcément influencé par ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons vécu, etc. Donc, le vrai truc, c'est pourquoi est-ce qu'on décide à un moment donné de rejoindre les théories qui sont des théories très manichéennes, où il y a un très très méchant, où il y a des très très gentils qui sont des très très victimes, etc. C'est-à-dire une vision un peu binaire du monde. Et l'idée, c'est de leur donner de la complexité à ces adolescents, donc du coup leur permettre de comprendre que le monde est plus compliqué que ça, et leur donner de la confiance pour qu'ils se sentent pas toujours victimes de machinations ou de manipulations qu'on est en train de monter et dont ils seraient potentiellement les victimes. Mais pour leur donner de la confiance, il faut leur donner du pouvoir d'agir. Donc en fait, ça passe par tout ça, quoi. C'est-à-dire leur permettre de comprendre qu'ils peuvent produire de l'information, d'une part, qu'ils peuvent comprendre l'information qu'ils consomment, la croiser, la discuter, ne pas être d'accord, s'opposer, etc., la compléter. Et enfin, que de toute façon, même l'information qu'ils vont produire, eux, ce sera un simple regard, le leur, sur la situation qu'ils auront vécue.
En fait, il faut former les jeunes comme des jeunes journalistes, donc leur apprendre à croiser les sources, etc.
Et en fait, ce qui est plus compliqué que ça, c'est que moi, en étant jeune journaliste, j'étais persuadée qu'il y avait de la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut même changer la manière dont on forme les journalistes. C'est-à-dire que il faut aussi que eux-mêmes se disent pas qu'ils sont les seuls garants de la vérité. Je pense que tant qu'on sera dans une opposition clivante entre il y a ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, parce qu'ils ne sont pas patentés pour pouvoir dire la vérité, on sera dans une situation un petit peu compliquée. Et en même temps, les débuts de Wikipédia, c'était très intéressant, hein. Longtemps, Wikipédia a été complètement refusé par la forme scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on me disait, ah oui, mais non, mais c'est pour qu'ils aillent sur Wikipédia. Certains le disent encore, hein. Alors que Wikipédia, aujourd'hui, il n'y a pas de problème sur Wikipédia. Pourtant, c'est produit par des bénévoles qui ne sont pas des spécialistes. Mais certains sont des spécialistes, mais d'autres ne le sont pas. Donc, on pourrait aussi être sur un système presque de confiance, de blockchain de l'information, qui nous permettrait aussi de voir l'information de manière un petit peu différente.
Par exemple, les initiatives pour vérifier les sites, dire tel site est sûr, tel site n'est pas sûr, vous n'êtes pas forcément pour.
Ben non, parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on rend. Moi, je sais qu'on peut lire des conneries, pardon, je le dis comme ça, mais sur n'importe quel site officiel, gouvernementaux, des médias, il n'y a pas de problème. Des erreurs, il y en a partout. Mais on peut aussi lire des choses intéressantes sur des sites qui, au départ, sont absolument malveillants parce que ce propos-là, cette formulation, même de quelqu'un avec qui je suis d'accord en rien, qui est mal intentionné, etc., ça peut être intéressant à considérer comme un point de vue que je regarde et je me dis, ah ouais, c'est intéressant quand même que cette personne pense comme ça parce que du coup, moi, ça me fait penser comme ça. Et en fait, il faut qu'on sorte de la vision, il y a les bons et il y a les mauvais. C'est bien plus compliqué que ça.
Et lors des formations, est-ce que les jeunes sont réceptifs? Ils arrivent à comprendre?
Alors,
ça?
On est sur une grosse expérimentation sur ces sujets-là dans des quartiers un peu compliqués. Et en fait, je crois qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Et pour le coup, on est obligé d'évoquer la question des algorithmes. On est obligé de comprendre que, par exemple, l'information, elle arrive à nous à travers des canaux, des filtres, etc. Et que ce filtrage, forcément, il est orienté en fonction de qui je suis, etc. Et puis qui vient me conformer parfois ou me conforter dans l'opinion que j'avais déjà des choses, etc. Donc on est en train de faire ça, développer leur culture numérique, leur culture du réseau, leur culture de l'information. Et on va voir si, à l'issue des 4 séances, puisqu'on est sur un protocole d'évaluation un peu sévère, ils ont amélioré leur confiance en eux, pour le coup, qui devrait leur permettre normalement de fabriquer un propos un peu plus complexe que ce à quoi ils sont parfois habitués.
Merci.
Merci.
Vous pouvez retrouver tous les projets de l'association sur fréquence-école.org. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui nous emmène cette semaine au Tchad avec le blog d'Anajib. Notre Mondoblogueur s'est intéressé à l'état de la culture numérique dans son pays.
Ici au Tchad, quand on parle de culture numérique, c'est soit positif, ou dire que des formations sont mises en place pour la promouvoir, soit négatif, ou dire que la culture numérique n'existe tout simplement pas au Tchad. La question c'est, est-ce qu'on peut vraiment parler de culture numérique au Tchad? Ah ça non, pas vraiment. Il faut savoir que sur 15 millions d'habitants au Tchad, seuls 5% utilisent Internet. On peut donc dire qu'ici, la culture numérique est d'abord celle du petit nombre. La moitié des internautes tchadiens sont sur les réseaux sociaux. Et vu que la grande partie des internautes tchadiens confondent l'Internet et les réseaux sociaux, on peut presque dire qu'au Tchad, la culture numérique, ça se résume aux réseaux sociaux. Au Tchad, toutes les disciplines qui sont liées de près ou de loin aux études numériques ne sont transmises que très tard à l'université. Mais en réalité, même à l'université, ça ne sert pas à grand chose. Parce que les cours des enseignants ne sont pas mis à jour. Ils sont tous caducs. En fait, il faudrait promouvoir la culture numérique dès l'école primaire. Mais sans une réelle volonté politique de la part du gouvernement, cela paraît extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. En attendant, les Tchadiens qui se lancent dans le numérique sont quasiment tous des autodidactes. En réalité, les enjeux de la culture numérique sont encore très mal connus au Tchad. Ailleurs, le numérique change complètement la façon de vivre, d'apprendre, de penser, de communiquer, de se soigner ou de faire des achats. Mais au Tchad, parler de blockchain ou de bitcoin, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Alors, en attendant, on préfère couper Internet dès qu'il y a des contestations. Car une chose est sûre, les enjeux numériques qui sont les mieux compris ici, ce sont les enjeux politiques.
Vous venez d'entendre Anajib lire une partie de son billet « Y a-t-il une culture numérique au Tchad ?» Notons que cela fait maintenant plus d'un an que plusieurs sites internet, en particulier les réseaux sociaux Facebook et Twitter, et les applications de messagerie WhatsApp et Viber qui sont volontairement bridées au Tchad. Pour reprendre les termes de l'ONG Internet sans frontières, cette censure est disproportionnée, illégale et injustifiée. À ce sujet, les autorités tchadiennes sont l'objet de plusieurs actions judiciaires toujours toujours en cours. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, Steven Jambeau au micro. Je vous dis à la semaine prochaine, une heure plus tard que d'habitude à la radio, puisqu'on change d'heure en France. Ce qui ne change pas, c'est que vous pourrez retrouver dès vendredi en podcast votre émission L'Atelier des médias.